Tu m'étonnes avec le temps qu'il fait.
Vous voulez boire un verre?
Volontiers.
Oh Adrien, tu me sers deux pastis.
C'est très chaud, non?
Pierre transpire de partout.
Tu gourdes?
Et alors, vous voulez pas prendre le pastis?
L'apéro, le rendez-vous estival de Radio Campus Paris.
Je pense qu'on peut démarrer l'apéro.
La complexité du monde angoisse nos pauvres âmes déjà torturées d'occidentaux, puis nous pousse carrément à l'inaction. C'est pourquoi de toutes parts, les recruteurs de la Startup Nation aboient en courant après la skill, nouveau mot pour désigner la compétence sur un CV digne d'être lu par ton futur manager, qui en réalité sera fouiné sur ton profil Facebook. La compétence donc recherchée par tous, c'est celle de la créativité. Et là, je vous vois venir. La créativité, c'est cette manière de faire apparaître par la pensée et la réalisation de la nouveauté. Si ce monde est complexe, alors toutes les nouveautés, ou presque, existent déjà. Comment donc alors bomber soi-même son torse et se qualifier soi-même de personne créative? Pas besoin d'avoir fait l'école du Louvre en cours du soir et de teindre tes poils des aisselles en vert pour te montrer créatif. Non, le simple comportement que nous adoptons en été est une preuve de créativité. Observons. Tout à coup, nous trouvons l'énergie de sortir un peu plus longtemps après le travail. Tout à coup, nous n'avons plus la patience de répondre gentiment oui à toutes les demandes de notre patron écrasant. Tout à coup, on sort en vêtements légers alors qu'on trouve notre corps trop ceci ou trop cela. La chaleur, tout comme les autres types de contraintes, nous rendent créatifs parce que la nouveauté, ce n'est pas une idée qu'on aurait qui n'a jamais existé nulle part, mais une idée dont nous ne serions pas cru capables. La créativité est au cœur du travail de nos invités ce soir. Peut-être nous aideront-ils à mieux la définir. Une chose est sûre, ces prochains jours vont être chargés en défis créatifs pour eux. Autour de la table ce soir, nous découvrons la préparation de la 6e édition du festival Actefac. C'est avec eux qu'on ouvre la première édition de cet apéro d'été. 6 éditions pour mettre en valeur la jeune création théâtrale au Théâtre de la Bastille. Laura Pardonnet, responsable du service d'action culturelle de la Sorbonne Nouvelle, coordonne l'organisation de ce festival. Bonsoir Laura.
Bonsoir.
Alors, à trois jours du lancement de cette édition, j'imagine que vous êtes plutôt enthousiaste?
Plutôt enthousiaste et plutôt paniquée, mais comme tous les ans, donc ça ne m'inquiète pas trop.
Alors, sont venus pour vous rassurer avec vous les membres de la compagnie Le Veilleur, les acteurs Quentin Mentier et Giuseppina Comito, pardon, ainsi que la metteuse en scène Marion Bouquet. Salut.
Salut.
Vous nous présentez la pièce Ashes to Ashes, le texte est d'Harold Pinter, yes. Et on la découvre jeudi soir en ouverture du festival. Sont également présents pour cet apéro Radio Campus Paris spécial Actefac, Sylvain Onkelé, auteur et metteur en scène du spectacle Notre Océan.
Bonsoir.
Salut.
Merci.
Et sont venus avec vous deux autres membres de la compagnie Les Plusieurs Vies, Bérénice Gauthier et Robin Chatonnier, que nous retrouvons tout à l'heure. Pour le rendez-vous actualité de notre programme, on retrouvera Hugo qui viendra clore l'émission par sa revue de presse. L'émission de ce soir est réalisée par Mickaël aux commandes. On participait à la préparation de cette émission. Alexandra et Daphné, justement, Daphné est à mes côtés pour cette interview. Salut.
Bonsoir.
Alors, autour de la première partie de cette émission, j'aimerais évoquer la préparation de ces festivals. Vous êtes tous les trois porteurs du projet. Laura, porteuse du festival tout entier. Comment s'organisent vos prochains jours et quels sont les derniers préparatifs?
Alors déjà, peut-être pour préciser, là, en fait, c'est la fin, le festival, c'est la fin de toute une année d'accompagnement. Parce qu'Actefac, c'est également un programme d'accompagnement de jeunes metteurs en scène de la Sorbonne Nouvelle. Toute l'année, ces compagnies ont été accompagnées par des artistes professionnels, des structures culturelles professionnelles du territoire, ont été formées. Il y a plus de 100 heures de formation en administration, des formations artistiques, techniques. Et voilà, et après, tous ces mois où on a travaillé ensemble, il y a eu des cartes blanches aussi à l'université et plein d'autres rendez-vous, enfin, on arrive au moment du festival. Et là, la dernière ligne droite, c'est gérer, comme tous les festivals, la communication, les réservations, la logistique, le comité de professionnels. Ça nous prend beaucoup de temps parce que l'idée, c'est que ça soit le festival à la Bastille soit un festival tremplin. Donc l'idée, c'est que le maximum de programmateurs, directeurs de lieux, chargés des relations avec les publics, voient le travail de ces 6 jeunes troupes qu'on porte et auxquelles on croit beaucoup depuis maintenant plusieurs mois.
Vous avez évoqué plusieurs éléments de Actefac. Est-ce que vous pourriez déjà nous expliquer un petit peu plus ce que c'est Actefac, qui sont les personnes qui le composent, que ce soit au niveau de l'encadrement ou des personnes qui viennent profiter du programme et du dispositif?
Je vais essayer, c'est assez touffu, mais en gros, Actefac, c'est un projet qu'on a monté donc, depuis le service d'action culturelle de l'université, de la Sorbonne Nouvelle, un dispositif qu'on a monté il y a 6 ans maintenant. Et l'idée avec ce dispositif, c'est que quotidiennement, on rencontrait des étudiants qui cherchaient à se professionnaliser dans le domaine du spectacle vivant. Et à côté de ça, on avait beaucoup de partenaires de billetterie, d'action culturelle, donc les théâtres partenaires d'Île-de-France, en gros, avec lesquels on travaillait sur d'autres projets d'action culturelle. Et on a eu le désir de mettre ça en commun pour essayer d'accompagner au mieux ces jeunes artistes dans leur professionnalisation. C'est vraiment ça le point de départ. Et donc de ça est né tout un programme de formation, comme je viens de l'évoquer, donc qui où beaucoup de personnes sont investies, beaucoup de personnes à l'université, beaucoup de services de l'université et de structures culturelles partenaires. Il y a 20 artistes associés par année, une vingtaine de structures culturelles également. Et 10 services de l'université, voilà. Et donc d'année en année, le dispositif s'est un peu étoffé, a un peu grossi pour devenir aujourd'hui vraiment le programme d'accompagnement théâtral de l'université.
Alors vous l'avez évoqué, c'est aussi un programme de professionnalisation. Marion Bouquet et Sylvain Onkelet, qu'est-ce qui a fait que vous aviez plutôt envie de privilégier le parcours Actefac plutôt que tout simplement aller vers une compagnie préexistante auprès de d'autres artistes pour vous professionnaliser ?
Je pense que c'est vraiment une grande chance de pouvoir participer à ce dispositif en tant que jeune compagnie. Ça nous donne une vraie colonne vertébrale dans l'année. On a été hyper soutenus et on a eu une chance assez incroyable de faire des rencontres. En fait, c'est vraiment la possibilité. Laura nous donne la possibilité et toute l'équipe de faire des rencontres autant humaines qu'artistiques. Et du coup, pour la création du projet, ça facilite et ça fluidifie à fond la création du projet.
Et pour répondre à votre question, moi, je trouve une des grandes vertus d'Actefac, c'est surtout de permettre de développer son projet et sa compagnie. Et vraiment, je me souviendrai du premier atelier qu'on a eu, c'était vraiment réussir à saisir ce qui fait notre identité et la construire. Et c'est pas forcément évident, en fait, quand on est... comme ça, en train de construire nos projets, de réussir à saisir ce qui fait ce qu'on est. Et la rencontre avec tous les artistes, avec tous les professionnels au cours de l'année, ça permet d'affiner tout au long d'un an, tout au long d'une année, jusqu'à cette étape du festival.
Dans vos compagnies, il y a au moins un membre de la compagnie qui est à Paris 3. C'est la principale règle pour rentrer à Actefac.
Yes.
Est-ce que vous faites tous ça en parallèle de cours ? Est-ce que vous êtes étudiant soit à Paris 3, soit ailleurs ? Est-ce que vous avez des métiers à côté ? Ou est-ce que c'est votre principale activité ?
Moi, j'ai été étudiante pendant 7 ans à Paris 3. J'ai validé un master. Et Josépina, avec qui je suis artiste associée dans la compagnie et qui est la comédienne de H's to H's aussi, a validé le même master que moi. Et maintenant, on a fait ça en parallèle. Maintenant, c'est vrai qu'on se lance professionnellement à fond dans la compagnie.
Et pour ma part, moi, j'ai fini il y a quelques années mon master à Paris 3. Et là, cette année, c'était Camille Laillet, mon assistante à la mise en scène, qui était du coup à Paris 3. Et j'étais en parallèle au CRR de Créteil, en cursus metteur en scène.
D'accord, donc dans un autre établissement, mais vous faites quand même des études.
Bien sûr.
Et du coup, comment est-ce que vous arrivez à gérer le fait de créer un spectacle entier, puisque vous créez du coup un spectacle entier en parallèle de vos vies? Évidemment, vous êtes très, très bien accompagné, mais c'est quand même une grosse charge de travail. Est-ce que vous arrivez à bien gérer les deux ?
Mais moi, c'est un peu tout. Je fais tout en fonction de la création de mes projets. C'est ça qui me nourrit, c'est ça qui m'anime. Du coup, c'est plutôt comment ma vie arrive à se créer autour de la création du projet, je pense.
Et puis aussi, tout au long d'une année, il y a des rendez-vous. Et par exemple, moi, même si j'ai eu beaucoup de projets cette année, il y a eu grâce à notre structure marraine, l'Odéon, on a eu un temps de résidence qui était extrêmement précieux. Et c'est des temps, en fait, où on ne fait que ça, on se consacre à ça. Et c'est important d'avoir ça.
Alors justement, sur cette conjonction entre les études et le processus de création Actefac, à Paris 3, c'est surtout des études théoriques. On n'est pas au conservatoire. Le master de théâtre ne fournit pas beaucoup d'ateliers ou beaucoup de modules de création. Est-ce que ce dispositif Actefac vient répondre à un manque au sein de l'université et à cette envie que l'université a de produire du savoir et de la théorie uniquement ?
Oui et non, je pense que c'est vrai ce que tu dis. Après, je pense que les choses bougent aussi. Enfin, maintenant, à Paris 3, il y a de plus en plus de licences professionnelles, de masters aussi professionnalisants. Il y a un master qui s'appelle le master en création, il y a des licences pro en costume, en scénographie, il y a un master des métiers de la production théâtrale. Donc quand même, je pense que l'institution universitaire et les formations sont vigilantes à ça et font attention, en tout cas à Paris 3, à l'insertion professionnelle dans le domaine culturel, parce qu'en fait, c'est le profil disciplinaire de l'université qui veut ça. Il y a un UFR important d'art et médias à Paris 3. Après, donc, je ne sais pas si on vient répondre à un manque. En tout cas, clairement, quand on a créé ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est parce qu'on avait des sollicitations quotidiennes. Et je pense qu'effectivement, l'envie de pratique, le besoin de mise en relation de ces jeunes artistes est un peu inépuisable. Donc voilà, même s'ils sont dans des formations qui s'ouvrent de plus en plus à la pratique, ActeFac vient là en renfort, en complément, en approfondissement et aussi en mise en réseau avec les artistes, avec les structures et entre jeunes compagnies. Parce que là, en 6 ans, il y a 56 compagnies qui sont passées par ce programme. Du coup, ça crée aussi un réseau d'artistes qui se retrouvent après ou pas, qui mènent des collaborations ou pas. Donc voilà, je pense que ça se complète en fait.
Alors, quelles ont été les thématiques des heures de formation que vous avez suivies ?
Il y a eu un parcours administratif très très dense sur plein de sujets, par exemple sur
la poésie de la compta,
le plaisir de la licence d'entrepreneur du spectacle,
les droits d'auteur, toutes ces petites choses sympas,
toutes ces joies, tout ce paysage qu'on ne découvre pas, qu'on vous cache soigneusement quand on est un étudiant dans les conservatoires et qu'on trouve.
Oui, parce que les compagnies qui viennent solliciter le dispositif ActeFac, est-ce qu'elles disposent déjà d'une structure juridique clairement établie ? Est-ce que c'est une des conditions pour rentrer dans le dispositif ?
Non, alors les compagnies, le tissu de compagnie est assez protéiforme, pour tout dire. Elles n'en sont pas forcément au même niveau. Il y en a qui sont déjà très professionnelles, enfin qui sont déjà dans cette démarche-là, pas forcément à Paris, par exemple, donc qui ont besoin de se faire un réseau à Paris, de développer des outils à Paris. D'autres qui sont beaucoup plus jeunes. Voilà, l'idée, c'est aussi qu'il y a un peu des compagnies pilotes et d'autres, du coup, qui s'accrochent à ça et qui grandissent au contact de ces compagnies plus avancées. Par contre, pour ce qui est de la structuration, toutes sont quand même des associations. Enfin, c'est la structure la plus commune pour les compagnies de spectacle vivant en général, professionnelles aussi d'ailleurs. Voilà, donc c'est pas un critère, mais a priori, si elles viennent à ActeFac, c'est pas des premiers projets en fait, ActeFac. Donc souvent, elles ont déjà une association sur laquelle se reposer. Par contre, elles n'ont pas forcément d'administrateur, de chargé de production, de chargé de diffusion. Donc comme le dit Sylvain, tous ces rendez-vous hebdomadaires, tous les lundis soirs sur l'administration de leur troupe, leur donnent quand même ce bagage-là. Et à chacune de ces interventions, c'est un professionnel différent qui vient. Donc voilà, il y a un administrateur qui va venir, puis un chargé de prod, puis un chargé de diff, puis un enseignant-chercheur de l'université. C'est un programme qu'on monte, le parcours administratif, avec le bureau d'aide à l'insertion professionnelle de la fac. C'est important aussi en fait, de croiser nous, ce projet, avec d'autres services, avec les enseignants-chercheurs, enfin voilà, d'en faire quelque chose d'un peu, pas vraiment unique, mais en tout cas singulier dans le paysage, parce qu'on porte ça depuis l'université. Pour nous, ça a du sens en fait, de le porter depuis la fac.
Sylvain, vous avez évoqué le théâtre de l'Odéon, donc, qui est votre institution marraine. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'avoir des institutions marraines comme ça ? Et Laura, comment est-ce que vous avez réussi à démarcher des théâtres prestigieux comme par exemple l'Odéon pour les convaincre de travailler avec les compagnies d'ActeFac ?
Pour nous, c'était très important d'être soutenus parce que à chaque structure, il y a aussi un artiste. Et pour nous, cet artiste, c'était Maxence Van Velde de la compagnie Si vous pouviez lécher mon cœur. Et c'est très important pour nous, enfin, ce parrain a été très précieux, il est venu 3 fois et à chaque fois c'est un regard sur notre spectacle, c'est un regard et ça permet d'avoir sortir un peu la tête de l'eau et de voir les choses différemment. Et j'aimerais aussi saluer Clémence Bordier qui nous a beaucoup beaucoup soutenus, qui nous a permis d'avoir un studio pour répéter, qui nous a permis d'avoir, parce que trouver une salle de répétition sur Paris c'est pas toujours évident, qui nous a permis d'avoir une résidence. Et donc tout ce soutien là qui nous a permis de présenter nos spectacles aussi dans le studio de l'Odéon, ça nous offre en fait un espace, un endroit pour créer, un endroit pour nous réunir, et c'est un temps précieux, très très précieux pour nous.
Oui, pour compléter, en fait, au départ, nous, au service d'action culturelle, on a un pôle de billetterie très... Enfin, qui travaille beaucoup, on vend 15 000 billets par an à l'université pour toute une série de structures culturelles partenaires du territoire. Et avec les années, on a créé du coup des relations assez fidèles avec ces lieux-là, donc souvent avec les chargés ou les responsables des relations avec le public de ces lieux. Et c'est vraiment avec eux, au départ, qu'on a monté ActeFac. Donc c'est avec l'Odéon, la Bastille, le Montfort, Vanves, enfin toutes ces structures. C'est avec eux qu'on a eu l'idée et effectivement, eux nous envoient chaque année un artiste partenaire, un artiste parrain qui va venir soutenir le projet de création. Et donc c'est comme ça que c'est né. Et au fil des années, au départ, c'était 6 partenaires et c'est passé à 10, à 15. Enfin, ça s'amplifie avec les ans.
En plus du festival donc, de la semaine prochaine, ActeFac, il y a aussi un festival avec le Théâtre de Belleville.
Vous aviez fait, j'entendais tout à l'heure que vous aviez fait des points d'étape, des performances en points d'étape. C'est des...
Alors.
Où c'était où était-ce et à quelle fréquence? Et c'était des morceaux de vos spectacles?
Non, alors le Théâtre de Belleville, pour répondre à cette première question, est associé et a un artiste parrain qui nous envoie, mais comme tous les autres théâtres partenaires. Il y a le festival ActeFac au Théâtre de la Bastille. L'année suivante, il y a un rappel où les compagnies qui ont joué à la Bastille rejouent.
Très bien.
Il a eu lieu longtemps au Théâtre de l'Opprimé. L'année dernière, il a eu lieu, cette année, au Centre Paris Anime Léal Le Marais. Il aura de nouveau lieu là-bas l'année prochaine. Et après, il y a des cartes blanches aussi dans ActeFac, c'est peut-être à ça que tu fais allusion. Et ça, les cartes blanches sont sur le campus. L'idée, c'est de donner un peu une sorte de résidence aux compagnies, parce que les compagnies travaillent. À l'université, on a des salles de pratique artistique dans lesquelles les compagnies travaillent. Et du coup, à deux moments au fil de l'année universitaire, on leur laisse carte blanche. Et là, l'idée, c'est qu'elles travaillent ensemble et qu'elles inventent des projets à la croisée de leurs univers.
Et aussi une première occasion de rencontrer le public. Vous nous direz comment ça s'est passé et comment le public a réagi à vos projets avant le festival qui démarre ce jeudi. L'apéro, l'été, tout ça, c'est sur le 93.9 à 19h20 avec On My Radio de The Selecteur. Restez avec nous sur Radio Campus Paris, tout de suite, une lecture.
Garçon, deux bassines doublées, trois tripes.
Pour un pic en bière, c'est moitié-moitié.
L'apéro, jusqu'à 20h sur le 93.9.
Rafraîchissant.
Oui.
Eh bien, par exemple, il se plantait devant moi et il fermait le poing. Puis il plaquait son autre main sur ma nuque, il serrait, et il attirait ma tête vers lui. Il frottait son poing sur ma bouche et il disait « Embrasse mon poing ».
Et toi, tu le faisais ?
Oui. J'embrassais son poing, ses phalanges, et ensuite il ouvrait sa main, il m'offrait sa paume pour que je l'embrasse, et je l'embrassais. Et ensuite je parlais.
Qu'est-ce que tu disais ? Tu disais quoi ? Qu'est-ce que tu lui disais ?
Je disais « Prends mon cou dans ta main ». Je murmurais ça à travers sa main en l'embrassant. Mais il entendait ma voix à travers sa main. Il sentait ma voix dans sa main, il l'entendait là.
Et lui, il faisait ça. Il mettait sa main autour de ton cou.
Oui, il faisait ça, bien sûr. Et il la gardait là très doucement. Très doucement. Si doucement. Il m'adorait, tu comprends ?
Il t'adorait. Ça signifie quoi, il t'adorait ? Qu'est-ce que ça signifie ? Tu veux dire qu'il n'appuyait pas sa main sur ta gorge, c'est ça ce que tu me dis ?
Non.
Quoi, alors ? Qu'est-ce que tu veux dire ?
Il appuyait un petit peu sur ma gorge, oui. Mm-hmm. Si bien que ma tête se renversait en arrière, doucement, mais franchement.
Et ton corps ? Où il allait, ton corps ?
Mon corps se renversait en arrière, doucement, mais franchement.
Donc tes jambes s'ouvraient ?
Oui.
Tes jambes s'ouvraient ?
Oui.
Tu as conscience d'être hypnotisé ?
Quand ?
En ce moment.
Non.
Ce n'est pas vrai ?
Non.
Pourquoi pas ?
Par qui ?
Par moi.
Toi ?
À ton avis.
À mon avis, tu es un fouille-merde.
Un fouille-merde, moi ? Mais tu veux plaisanter ?
Moi, plaisanter. Tu veux plaisanter.
Tu comprends pourquoi je te pose toutes ces questions, n'est-ce pas ? Mets-toi à ma place, je suis obligé de te poser des questions. Il y a tant de choses que je ne sais pas. Je ne sais rien de toute cette histoire, rien. Je suis dans le noir, j'ai besoin de lumière. Ou bien trouves-tu mes questions illégitimes ?
Quelle question ?
Écoute, ce serait très important pour moi. Tu pourrais me le décrire plus clairement.
Le décrire ? Comment ? Comment ça, le décrire ?
Physiquement ! Me dire de quoi il avait l'air exactement, tu me suis ? Longueur, largeur. Tout ça. Hauteur. Épaisseur. Et comprends-moi, en dehors de ses intentions et quelles qu'elles aient pu être, ou de son caractère, ou de son attitude spirituelle, je veux seulement... Ou plutôt, j'aurais besoin d'avoir une idée plus claire de lui. Non, même pas une idée plus claire, en fait. Une idée tout court, parce que les choses étant ce qu'elles sont, je n'ai pas la moindre idée de la tête qu'il avait. Alors, il avait l'air de quoi ? Est-ce que tu peux lui donner une forme ? Une forme concrète ? Je veux une image concrète de lui, tu vois ? Je veux une image que je puisse garder. En fait, tu ne me parles que de ses mains. Une main sur ton visage, l'autre sur ta nuque, et ensuite la première sur ta gorge, mais... On ne peut pas le réduire à ses mains. Et ses yeux, il avait des yeux.
De quelle couleur ?
C'est exactement la question que je te pose, mon amour.
C'est si bizarre d'être appelé mon amour. Personne ne m'a jamais appelé mon amour. Sauf mon amant.
Je n'y crois pas.
Tu ne crois pas quoi ?
Je ne crois pas qu'il n'était jamais appelé mon amour. Tu trouves illégitime que j'utilise ce mot ?
Quel mot ?
Mon amour.
Ah oui, tu m'as dit mon amour. Comme c'est drôle.
Drôle ? Drôle, tu trouves ça drôle ? Pourquoi
oui.
Drôle ?
Et voyons, comment peux-tu m'appeler mon amour ? Je ne suis pas ton amour.
Mais si.
Et je ne veux pas être ton amour, c'est la dernière chose que je veux. Je ne suis l'amour de personne.
C'est une chanson.
Quoi ?
Je ne suis la chérie de personne.
Non, non, c'est tu n'es le chéri de personne. Et de toute façon, j'ai pas dit le mot chéri. Je ne peux pas te dire de quoi il avait l'air.
Tu as oublié.
Non, j'ai pas oublié. Et il ne s'agit pas de ça. Du reste... Il est parti depuis des années.
Parti ? Où ça ?
Pour son travail. Il avait un métier.
Lequel ?
Pardon ?
Quel genre de métier ? Quel métier ? Merci.
Une autre bière.
L'apéro, c'est le rendez-vous estival de Radio Campus Paris.
Ok, à quelle heure ?
À 19h.
Eh ben c'est parti, l'apéro.
C'est maintenant.
Bonjour ma propre sœur.
Et on entendait dans l'apéro de Radio Campus Paris un extrait du texte « Ashes to Ashes » d'Harold Pinter à notre micro. Mis en scène par Marion Bouquet, on retrouve le spectacle au Théâtre de la Bastille ce jeudi à 19h. Merci Giuseppina Comito et Quentin Ménétier de nous avoir rejoints d'abord au micro et pour cette lecture. Salut.
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 Bérénice Gauthier, comédienne du spectacle Notre Océan, nous a également rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on en discutait avant la pause musicale et cette lecture. Vous avez d'ores et déjà rencontré pas mal le public grâce au dispositif Actefac et notamment par des cartes blanches. Qu'est-ce qu'étaient les cartes blanches? Avec quelle compagnie vous avez collaboré et comment étaient les réactions du public face à votre travail?
En fait, la...
Alors, Sylvain Auclay. Oui.
Alors, l'expérience de la carte blanche, c'est une semaine où on est avec d'autres compagnies. En fait, les compagnies sont séparées en deux parties. Et avec ce petit groupe, on devait penser une semaine de vie sur le campus et l'animer. Donc, ça pouvait être par des lectures, ça pouvait être par des répétitions ouvertes, par des ateliers. Et donc, il fallait se réunir avec les autres compagnies et trouver un sujet qui était le thème de cette semaine-là. Et à partir duquel chacun allait créer, allait penser cette semaine. Et c'est très très difficile de faire vivre une carte blanche sur un campus, puisque c'est des étudiants qui doivent aller en cours et tout ça. Et donc souvent ça prenait la forme d'une performance, d'un happening, d'une invitation. Je sais que pour notre carte blanche par exemple, il y a des compagnies qui ont fait un isoloir et il y avait un confessionnal où les passants étaient invités. Notre thème, c'était la solitude, à venir échanger avec un inconnu, par exemple. On a eu des lectures autour de la solitude. Nous, notre sujet, donc, c'était la solitude dans la fac, comment la rompre, comment la penser.
Et c'est vrai que nous, pour la compagnie Le Veilleur, on était donc dans l'autre groupe de cartes blanches et on a aussi travaillé comme ça, c'est-à-dire on a trouvé des thèmes communs, des choses qu'on travaillait en commun et ça nous a permis de présenter des cartes blanches avec d'autres artistes, d'autres compagnies d'Actefac et de vraiment les rencontrer.
Donc, le dispositif était le même, vous étiez au milieu des étudiants et vous aviez à chercher l'attention des étudiants?
Oui, on pouvait trouver des salles, enfin avoir soit des salles de pratique dans lesquelles on les invite à rentrer, soit faire des happenings dans le couloir, mais il y a eu des échauffements qui étaient proposés dans des salles de pratique, des performances aussi participatives. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. On a travaillé sur la mémoire avec des compagnies qui avaient en fait les mêmes thèmes que les nôtres.
Vous avez eu quel accueil globalement, que ce soit des étudiants ou des professionnels que vous avez pu rencontrer? Est-ce que ça a été un accueil plutôt bienveillant? Est-ce que les gens faisaient attention à vous?
Moi, ce que j'ai surtout senti, c'est une forme de curiosité. Même si c'est les cartes blanches, c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années à Actefac. Là, vraiment, pouvoir investir une cafétéria et d'un coup avoir une lecture qui surgit, ça interpelle. Et ça, c'est intéressant, je trouve. Cette manière, on a eu aussi des installations. Nous, sur la solitude, on a eu une installation de bouteilles à la mer dans la fac, où les gens étaient invités à laisser un message et la retirer et porter, par exemple. Donc oui, c'est une forme surtout de curiosité. On a eu des retours très positifs et c'était vraiment appréciable.
Et au Veilleur, vous avez eu ce genre de retour aussi ou...
Alors nous, on attirait les personnes dans une salle. Particulièrement et puis on était avec d'autres compagnies aussi du coup c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut vraiment comme les obliger à faire une parenthèse dans leur journée, leur dire voilà maintenant on prend 5 minutes ensemble juste pour faire autre chose et quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui me paraît important aussi sur le campus.
Alors justement, c'est un campus qui est très touché par la création théâtrale et la vie culturelle de manière générale. Est-ce que le public a une attente, enfin le public et les étudiants, surtout les étudiants que vous avez rencontrés, ont une attente et une définition déjà prédéfinie du théâtre? Est-ce qu'ils s'attendent à quelque chose quand vous allez vers eux? Et est-ce qu'à Paris 3, il existe, finalement c'est une question un peu plus large, est-ce qu'à Paris 3, il existe une vérité sur le théâtre qu'il n'y aurait pas ailleurs?
Une attente, je ne sais pas. Je crois qu'on se laisse plutôt, prendre par la curiosité. Mais je pense qu'il y a surtout une exigence. Et ça, c'est vraiment chouette pour nous, parce que ça permet un vrai échange pour nous et puis pour tous les artistes qui sont là. Parce qu'il y en a plein qui ont des pratiques par ailleurs. Et puis au moins, les regards qui se portent sur les choses sont intéressants et on peut échanger.
Puis je pense que de la part du public, il n'y a pas vraiment... d'attente spécifique, parce que en dehors des gens qui sont en cursus théâtre, il y a plein d'autres étudiants dans d'autres cursus qui vont au théâtre, mais vont peut-être voir des choses très différentes les uns des autres, ou n'y vont pas forcément, ou n'y connaissent pas grand-chose. Et on avait fait un atelier, et on avait le retour de quelqu'un qui faisait pas de théâtre du tout. Et donc c'était intéressant aussi de voir l'approche que peut avoir tout type de public au sein de la fac par rapport au théâtre. C'est assez diversifié, en fait.
Et concernant votre travail avec des professionnels, donc vous avez travaillé avec des professionnels pendant ActeFac, vous avez eu plutôt des bonnes approches. J'ai eu l'impression que vous entendiez bien avec les professionnels avec lesquels vous avez travaillé. Est-ce que vous avez eu d'autres retours de professionnels qui n'étaient pas dans ActeFac? Est-ce que vous pensez que vos spectacles vont être bien accueillis en tant que jeune création, en tant que création liée à des universités?
En tout cas, nous, avec notre marraine, c'était un coup de cœur. C'est Marie Payen. On est marrainée par le théâtre de Vanves. Donc, c'est avec elle qu'on a travaillé. Pour les autres, on a hâte de voir, pour ceux qui seront là, du coup, jeudi à 19h, et de discuter avec eux après le spectacle, parce qu'on n'a pas pu trop les rencontrer en amont, en tout cas, autour d'une présentation. Mais en tout cas, ce sont des belles... quelque chose qui se tisse.
Nous, sur notre océan, on a eu la possibilité, grâce à notre structure marraine de l'Odéon, de faire des petites présentations d'extraits de spectacles, notamment pour d'autres professionnels. Et donc, en plus de Maxence, avec qui ça, Maxence Van de Velde, avec qui ça s'est très bien passé, qui nous a vraiment apporté son regard très différent d'une autre, et puis nourri de son expérience sur le projet, on a pu avoir d'autres regards. Et c'est aussi grâce à ActeFac que ça avance, et qu'on peut justement faire évoluer le projet grâce à d'autres professionnels. Donc, c'est très chouette.
On a pas mal parlé de la part administrative de la formation proposée par ActeFac. Vous abordez la part par petit point ce qui vous a touché artistiquement dans ce dispositif. Est-ce qu'il y a aussi des formations ou des temps de résidence spécialement conçus pour l'artistique de vos projets? Et en quoi consiste-t-il? Comment vous avez été formé et accompagné?
En matière artistique, oui, il y a un vrai soutien. Si on le demande, on peut s'échanger des bons procédés et plein de temps et d'espace. Mais en administration aussi, et dans tout ce cursus-là, oui, parce qu'on rencontre à chaque fois des professionnels qui viennent de structures, d'énormes structures, et qui ont une grande expérience derrière eux, et qui nous expliquent très concrètement les petites choses sur lesquelles il ne faut pas se tromper quand on est une jeune compagnie. Et donc, même si on a fait plein d'ateliers administratifs autres par ailleurs, celui-là, il a quand même une grande richesse.
Il y a eu des ateliers de pratique aussi. Moi, je n'ai pas pu en faire beaucoup, mais il y a eu un atelier de dramaturgie, il y a eu un atelier corps et voix, il y a eu un atelier de jeu. Il y a eu d'autres choses, certainement, auxquelles les membres de la compagnie participaient en fonction de leur disponibilité. Et donc, il y a aussi cet accompagnement-là artistique en plus de l'administratif.
Sinon, concernant votre manière d'envisager le théâtre, comment est-ce que vous définiriez le spectacle vivant que vous produisez? Est-ce que vous faites du théâtre contemporain, de la performance expérimentale? Est-ce que vous avez déjà des définitions de ce que vous faites?
Forcément, c'est forcément contemporain, le théâtre, parce que c'est toujours au présent et c'est toujours... un plaisir, même si on prend un texte du 17e et tout ça, c'est pas pour nous, pour les plusieurs vies, c'est pas du tout notre prise. C'est un texte qui a été écrit et réécrit ces dernières années, retravaillé plusieurs fois.
Sylvain Onclé.
Oui, c'est ça. Et nous, ce qui nous anime vraiment, c'est réussir à fédérer autour d'un projet, et notre océan, le spectacle, c'est vraiment réussir à... comment dire ?
À fédérer des personnes, en fait, en tant que spectateurs, qui n'ont pas forcément l'habitude ou la possibilité d'aller au théâtre. Nous, ce qu'on a fait, ce qu'on a eu la chance de faire grâce à Culture de Jouvence, qui est un dispositif, on a joué dans une maison de retraite médicalisée à Aubervilliers, et ça nous a apporté aussi une expérience de comment s'adapter à un lieu qui n'est pas un théâtre, et de comment penser, justement, grâce aux intervenants d'ActeFac, on y a pensé aussi, de faire deux versions pour notre spectacle, une version pour salle et une version nomade, c'est-à-dire une version où c'est nous qui nous déplaçons vers des personnes qui n'ont pas forcément la possibilité ou l'habitude d'aller au théâtre. Ça, ça fait partie de nos identités. Après, pour ta création ou ta vision de la chose.
Oui, pour Notre Océan en tant que tel, c'est un spectacle qui mélange théâtre et conte. Mmh. Et la grande particularité de ce mélange, c'est que du coup, on n'est pas obligé de tout montrer. On peut suggérer, on peut créer par les mots, par les bruitages. On peut faire surgir une plage sur scène sans le moindre grain de sable, uniquement à partir des mots, à partir de... Et c'est vraiment ça que j'ai envie de développer avec ce spectacle-là, c'est ce côté très ludique.
Et on en découvre plus sur les deux spectacles présents dans notre apéro ce soir, tout de suite après une pause.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. And the time she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Lord, Lord, Lord. Well, ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no sunshine when she's gone. And since she's always gone too long, ain't no sunshine when she's gone. I said this house just ain't no home. Any time that she goes away, anytime that she goes away, Lord, 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 anytime that she goes away, yeah. Anytime that she goes away. And I know, hell, to leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. It's only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no sunshine when she's gone, and since she's always gone too long, no sunshine when she's gone, said this house just ain't no home, anytime that she goes away. Anytime that she goes away, yeah, yeah. Anytime that she goes away, anytime that she goes away.
Beaucoup de sunshine dans le ciel parisien et dans la voix de José James, dont on entendait la reprise Ain't No Sunshine à 19h39 sur Radio Campus Paris.
Garçon, deux bâtisses doubles et trois frites.
Pour un picombière, c'est moitié-moitié.
L'apéro jusqu'à 20h sur le 93.9.
Rafraîchissant.
Oui.
À une fête d'anniversaire. J'ai appris plus tard qu'il était venu un peu par hasard, embarqué par des amis d'amis. Pour moi, c'était personne, mais...
Le capitaine Nemo se leva, je le suivis. Je me sentis involontairement rassuré en sa présence et j'augurais bien de notre entrevue.
On a discuté des premiers grands romans qu'on avait lus. Zola, Balzac, Dostoïevski, Dickens... On a parlé de livres et puis on a fini par parler de nous.
Le capitaine Nemo parlait avec une éloquence entraînante. Le feu de son regard, la passion de son geste le transfiguraient.
Il avait les lèvres salées.
Je ne dirais pas qu'il était très beau, mais il avait du charme.
Quel regard! Comme il vous pénétrait jusqu'à l'âme, comme il lisait au plus profond des mers!
Il l'a oublié, mais mon premier roman, à moi, c'était 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Et mon premier héros, le capitaine Nemo.
Laissez-moi donc vous dire, monsieur le professeur, que vous ne regretterez pas le temps passé à bord du Nautilus. À partir de ce jour, vous allez entrer dans un nouvel élément. Vous verrez ce que n'a vu encore aucun homme, et notre planète, grâce à moi, va vous livrer ses derniers secrets.
Nemo, en latin, ça veut dire personne. Et Alexandre, quand je l'ai rencontré, c'était Nemo. Enfin, je veux dire, c'était personne. Un inconnu. On s'est connus, on a accepté d'être vulnérables face à l'autre, on s'est aimés, et tous les deux on a beaucoup voyagé, puis on s'est fixés.
La mer n'appartient pas aux despotes. À sa surface, ils peuvent encore exercer des droits iniques, s'y battre, s'y dévorer, y apporter les horreurs terrestres. Ah, monsieur, vivez, vivez au sein des mers.
Il a trouvé du travail, il est devenu commercial. Les années ont passé, d'année en année, de promotion en promotion, personne est devenu quelqu'un.
Là seulement est l'indépendance. Là, je ne reconnais pas de maître. Là, je suis libre.
Il rentrait de plus en plus tard de son travail. Il s'est mis à lire de moins en moins, puis plus du tout. Mais ce soir, j'ai bien vu que tu lisais. J'ai bien vu que tu lisais comme avant. Sans compter les pages, clandestinement, en cachette. Un temps pour toi. Tu lis Jules Verne, toi ?
Pardon ?
C'est des romans pour gamins, ça, Jules Verne.
On entendait à l'instant un extrait du spectacle Notre Océan, écrit et mis en scène par Sylvain Onclet.
Une autre bière.
L'apéro, c'est le rendez-vous estival de Radio Campus Paris.
Ok, à quelle heure ?
À 19h.
Eh ben c'est parti, l'apéro.
C'est maintenant.
Je vais m'attendre, petite sœur.
Spectacle à découvrir samedi 6 juillet au Théâtre de la Bastille à 19h dans le cadre du festival Actefac qui est au micro de l'apéro de la soirée de ce soir. Merci à Bérénice Gauthier et Robin Châtaignier pour cette lecture et cette découverte radiophonique. Marion Bouquet nous a rejoint à nouveau au micro de cette matinale. On parlait de la vision du théâtre de la compagnie Les Plusieurs Vies dans la deuxième partie de cette interview. Et à votre tour, on est curieux de savoir comment s'est préparé les spectacles et quel type de théâtre on va venir voir en découvrant le théâtre de la compagnie Les Veilleurs.
Alors, avec la compagnie Le Veilleur, nous, ce qui nous touche particulièrement, je pense que c'est le rapport au public et la manière de prendre le texte pour soi. Achise to Achise, on l'a ouvert au public. J'aime bien dire ça, c'est que c'est une histoire qu'on veut partager. Les gens rentrent dans l'intimité du couple et en fait, ils vont assister à tous les déboires de ce couple. Et ils vont vraiment, plus qu'en être spectateurs, ils vont s'intégrer dedans. Et nous, c'est ce qu'on aime faire avec Le Veilleur, c'est s'inclure dans différents publics, faire des spectacles où on ne l'attend pas, jouer autant dans des bars que dans des salles de théâtre, et s'adresser et parler au présent aux gens qui sont là ce soir. Je pense que c'est vraiment ça qui mène en tout cas la direction artistique et les choix qu'on fait.
Alors, on a entendu des extraits de vos spectacles respectifs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus de quoi parlent vos spectacles, un petit peu vendre vos sujets entre guillemets
et surtout pourquoi vous avez choisi ces extraits particulièrement pour ce soir, pour l'émission de ce soir?
Moi je viens de mentionner le couple et je pense que Achise to Achise, qui est du coup une partition à deux voix, c'est deux personnages, qui est un couple qui part en vrille. On a entendu vraiment un des premiers extraits du texte où on entend qu'il y a un troisième protagoniste finalement dans cette histoire-là, un amant. On ne sait pas trop qui il est, on ne sait pas trop finalement qui est ce couple et on va assister à peut-être leur descente aux enfers, leurs histoires de couple et comment tout ça est mêlé. On mêle ça aux questions de la féminité, de la mémoire. Comment on est vraiment entrés par le rapport de domination homme-femme. C'est ça qui nous a vraiment intéressés.
Et puis la parole de la femme, comment elle se libère aujourd'hui aussi, c'est une manière d'interroger notre présent par ce texte qui, on parlait de théâtre contemporain tout à l'heure, c'est un peu, je rejoins Sylvain, ce que disait Sylvain, c'est prendre ce que ça nous fait aujourd'hui au présent, ces histoires-là qui sont pas si vieilles mais quand même, et tout notre passé, comment on le réinterroge aussi à travers les questionnements contemporains.
Et Giuseppina et Marion, vous avez choisi un texte du répertoire. C'est le seul de la programmation qui n'a pas été écrit par et pour les compagnies qui présentent leur spectacle. Pourquoi choisir un texte du répertoire pour parler d'un sujet tellement d'aujourd'hui et comment vous vous en êtes emparée finalement ?
Je crois qu'on marche un peu à l'instinct aussi sur les textes. C'est un texte qui s'est vraiment imposé aussi à Giuseppina et moi de travailler sur cette thématique-là. Et on est très heureuse. C'est qu'on aborde aussi finalement ce spectacle par le biais de l'hypnose, qui est un procédé qu'on utilise en fait dans le spectacle. Et on a beaucoup de chance, parce que du coup, Quentin, que vous avez entendu juste avant... Et outre comédien et magicien hypnotiseur, et du coup on est très heureux d'avoir pu mêler en fait toutes ces techniques et de faire toutes ces expériences là au plateau et pour servir en fait le propos, le texte et puis pour essayer de répondre ou en tout cas d'essayer de trouver quelques réponses aux questions que pose Pinter, parce que c'est vraiment un texte à trous.
Concernant notre océan, on a compris donc que ça parlait de l'océan, que ça parlait de littérature aussi. Comment est-ce que vous avez choisi de représenter cette idée de l'océan ? Tout à l'heure, en début de lecture, vous avez utilisé un ballon avec du riz à l'intérieur pour représenter l'océan. Est-ce qu'il y a d'autres choses de ce type dans votre spectacle, par exemple ?
Oui, il y a toute une création sonore et lumière qui est faite pour justement représenter... les fonds marins, notamment à certains moments de la pièce, le bruit des vagues, la couleur de l'eau et toutes sortes de choses. Et c'est suggéré plus que réellement montré, puisque tout est fait avec des ballons de baudruche, en fait. Donc, en fonction de comment c'est éclairé, de comment c'est utilisé, là, c'est un ballon avec des grains de riz dedans. Y a plusieurs... tout le thème de l'eau est omniprésent dans le spectacle par plein de manières différentes.
Voilà, et c'est ce que disait aussi Sylvain tout à l'heure, vu que c'est un conte et qu'il y a l'imaginaire qui est très très présent, c'était aussi le parti pris d'utiliser juste un objet et de le détourner de plus de façons possibles pour pouvoir bien montrer, justement pour laisser aussi le public faire son imaginaire là-dessus.
Alors on vient d'évoquer pour le spectacle Ashes to Ashes, la technique de l'hypnothérapie, de l'hypnose en fait, même pas de l'hypnothérapie, de l'hypnose. Mmh. Dans votre spectacle, il y a la technique du conte. De quelle manière votre jeu en tant que comédien à tous les trois des deux compagnies a été influencé par ce travail de toute cette année et par la préparation de vos spectacles ? Ah, vous avez le temps de réfléchir.
On a beaucoup questionné, en tout cas nous, le conte au plateau, puisque on est 6 sur scène, il y a 3 comédiens qui jouent les personnages de l'histoire, et il y a 3 conteurs qui racontent ce qui se passe, comme si c'était une histoire déjà qui avait déjà eu lieu en fait et qu'on vient livrer au public. Et justement, ça a influencé le processus de création et notamment l'écriture du texte qui a été écrit. Qui a été réécrit à plusieurs reprises justement pour explorer de différentes directions.
L'écriture de plateau, comme vous êtes en train de la décrire, est-ce que ça responsabilise le comédien de savoir que l'auteur est là sur scène et qu'il va prendre note et qu'il va modifier son texte parce que votre jeu est comme si c'est comme ceci ou comme cela ?
Je dirais que ça rapproche plus que ça responsabilise, parce que c'était aussi la force de ce projet, c'est que Sylvain, souvent, il nous demandait d'apporter des objets ou des petites surprises, ou voilà. Et en fait, on avançait tous un peu main dans la main là-dedans, vers une direction. Après, on savait pas trop où on allait et on faisait confiance à Sylvain pour ça. Mais du coup, moi, j'ai pas eu un sentiment de responsabilité, en tout cas.
On est responsabilisé déjà au départ en étant sur scène, mais du coup, c'est plus un dialogue, en fait. Nous, on apporte des choses, lui nous apporte un texte, on essaye, on teste des choses, ça marche pas, ça fonctionne. Notre parrain nous a beaucoup aidé là-dessus, nous a donné d'autres pistes auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Et donc ça a beaucoup bougé cette année, ouais.
Vous avez évoqué la confiance donc, qu'il y a dans votre compagnie. Est-ce que c'est des compagnies qui se connaissent depuis longtemps ? Est-ce que vous aviez déjà travaillé ensemble sur d'autres spectacles, plusieurs spectacles ? Comment est-ce que vous avez formé les compagnies aussi ?
Giuseppina est prête à nous partager son expérience.
Ben, en fait, nous, on se connaît depuis une dizaine d'années parce qu'on s'est rencontrés pour la plupart dans la compagnie Le Veilleur au lycée ou au conservatoire. Et on a du coup créé la compagnie, enfin, il n'y a pas très très longtemps quand même, mais c'était en 2016. Et depuis, on travaille ensemble, mais on travaille ensemble du coup depuis le conservatoire et entre-temps sur d'autres projets. Voilà.
Nous, c'est un peu pareil. On s'est tous rencontrés, enfin tous, moi, Robin et Sylvain et quelques autres, on s'est rencontrés au conservatoire du 16e arrondissement de Paris il y a 5-6 ans.
C'est la cinquième année, là.
Ouais, il y a 5 ans. Et le projet, au départ, est né là-bas, mais sous une autre forme complètement. Et on a commencé à travailler ensemble à ce moment-là. Et se sont rajoutés au fur et à mesure d'autres élèves des conservatoires, d'autres conservatoires d'arrondissement de Paris et aussi les techniciens qui venaient du lycée Paul Poiret, un lycée technique et tout. Et donc, la famille s'est agrandie au fur et à mesure, mais oui, ça fait un moment qu'on se connaît.
Oui.
Voilà.
Et du coup, ces compagnies, vous êtes que 3 pour chaque compagnie. Il y a évidemment plus de personnes dans les compagnies. Pourtant, dans HS2HS, il n'y a que 2 acteurs, apparemment. Ouais. Que font les autres personnes de la compagnie ? Vous, Marion, vous êtes metteuse en scène.
Oui. Alors nous, on a une équipe derrière nous. En fait, on a le Veilleur, c'est une direction à plusieurs têtes, en fait, artistique et administrative. On est 5 nanas à la tête de cette compagnie. On prend les décisions assez ensemble. Et Giuseppina et moi, on travaille vraiment sur l'artistique. Et ensuite, on a vraiment d'autres personnes qui nous soutiennent. Et on travaille beaucoup avec des copains, en fait. Voilà. Et on travaille parce qu'on a de la chance d'avoir des amis artistes assez merveilleux et du coup voilà, c'est sur ce projet là on est que 2, sur d'autres on est 6, 7, voilà
11,
voilà tout dépend des projets, mais on aime vraiment travailler en collectif et prendre les décisions en collectif en tout cas.
Et de votre côté, le personnel dramatique et le personnel technique, est-ce que c'est une collaboration de long terme?
Ça fait maintenant l'équipe technique, nos super régisseurs son et lumière, et puis Justine aussi qui est costumière et scénographe à Paris 3 justement, nous accompagne depuis un an et demi, à peu près quelque chose comme ça, peut-être plus longtemps pour la création son et lumière, parce que c'est né d'une collaboration au départ grâce au conservatoire du 6e, si je ne dis pas de bêtises. Il y a aussi plusieurs projets dans la compagnie, et là, on ne fonctionne pas vraiment en collectif, mais donc pour chaque projet, il y a un porteur de projet, et du coup, on fait confiance au porteur de projet, il y a une équipe autour. Et là, ben... pour notre océan, on est 11, si je ne dis pas de bêtises. Oui,
tout un tas d'artistes à découvrir. Merci en tout cas à tous ceux qui étaient présents ce soir, car les artistes du théâtre de demain sont à Paris 3. Et oui, je l'affirme. Et grâce au festival Actes et Facs, vous pouvez les découvrir au théâtre de la Bastille les soirées du 4, 6, 5 et 6 juillet, après-demain, donc, pour 6 spectacles à ne pas rater. Merci Laura Pardonnet, Giuseppina Comito, Marion Bouquet, Bérénice Gauthier, Sylvain Anclet, Robin Châtaignier et Quentin Métainier de nous avoir accompagnés pour ce premier apéro. On vous dit merde, ne me remerciez pas.
Garçon, 2 bassines doublées, 3 frites.
Pour un picon bière, c'est moitié-moitié.
L'apéro, jusqu'à 20h sur le 93.9.
Rafraîchissant.
Oui.
Le soleil, l'apéro, la détente de l'été sont au rendez-vous sur Radio Campus Paris, mais cela n'empêche pas Hugo de nous tenir au courant de l'actualité. On parle Big Bang aujourd'hui dans les journaux.
Oui, Elodie, et d'astronomie, il n'est pas vraiment question dans ce papier, mais plutôt de politique, puisque c'est ainsi que l'insoumise Clémentine Autain et la communiste Elsa Fossillon, évidemment, ont dénommé leur appel à l'union de la gauche. Si le nom Big Bang peut avoir l'air un petit peu prétentieux sur les bords, il traduit bien l'ampleur de la tâche à accomplir. Un score catastrophique aux européennes et un éparpillement rarement observé dans l'histoire récente. Voilà l'état de la gauche aujourd'hui. Mais si l'enjeu est de taille, pas de triomphalisme prématuré, le quotidien L'Humanité, qui est pourtant un petit peu partisan sur cette question, ne consacre qu'une petite demi-page au rassemblement des soutiens de cette initiative, pardon, hier au Cirque Romanès à Paris. Le journal de Jaurès se contente de relater les propos d'Elsa Fossion, qui ne veut plus, je cite, d'une union de la gauche à la papa, on ne sait pas ce que ça veut dire, ou de Clémentine Autain, qui prône, ouvrez les guillemets, des archipels citoyens, des îlots qui convergent vers une maison commune. Bon,
pour un programme...
Ah bah oui. Mais pour un programme politique, il faudra repasser, parce que seules quelques bonnes intentions et de vagues totems, comme la justice sociale et l'écologie, bien sûr, ont été évoquées hier, ce qui ne suffira certainement pas à réveiller une gauche en pleine narcose.
Et la gauche n'est pas la seule à avoir besoin d'un Big Bang.
Non, bien sûr que non, notre système éducatif aussi. En témoigne un article du Parisien paru aujourd'hui intitulé « Bienvenue dans la France des écoles drive », libéralisation, toujours libéralisation, ou comment la rationalité et le dogme de la rentabilité triomphent même en matière d'éducation. Et ce, malgré les belles promesses, puisque plus d'écoles fermées jusqu'en 2022, vraiment, s'interroge le Parisien, qui rappelle l'engagement présidentiel pris en réaction au mouvement des Gilets jaunes de ne fermer aucune classe d'ici à la fin du quinquennat sans l'accord des maires. La nuance est de taille, poursuit le quotidien, et la promesse calibrée pour répondre aux inquiétudes des Gilets jaunes et de la France périphérique risque de résonner étrangement après les grandes vacances. Alors que l'on croyait nos édiles ardents défenseurs de l'école du village, on les découvre peu gênés par la fermeture des classes et pas besoin d'avoir fait bac plus 12 pour comprendre que plus d'école dans un village, c'est moins d'argent à dépenser pour un maire doublement asphyxié par la baisse des dotations de l'État aux collectivités locales et la fin des impôts locaux. D'autant que la nouvelle loi Blanquer risque de ne pas améliorer les choses, comme nous l'expliquait l'humoriste Charles Nouveau dans le 5-7 de France Inter.
Des profs qui sont concernés par une nouvelle loi, une loi qui sera manifestement adoptée demain, une loi qui subit quelques critiques, évidemment, hein, puisque nous sommes en France et que c'est une loi. Une loi dont la mesure phare semble être le fait de baisser l'âge d'instruction obligatoire à 3 ans contre 6 actuellement. Une révolution, si comme moi vous ignoriez qu'environ 97% des enfants étaient déjà scolarisés dès l'âge de 3 ans. Mais aussi une loi qui va obliger les communes à financer les classes préscolaires privées à la même hauteur que les classes publiques. Alors ça non plus, je ne le savais pas. Apparemment, l'école publique se porte tellement bien que les mairies ont du budget pour soutenir l'école privée. Boum, champagne pour les demi-pensionnaires. Et puisque les établissements publics sont en parfaite santé, ça ne sert a priori plus à rien de critiquer l'éducation nationale.
Voilà, on met le couteau sous la gorge des mères, puis on dit qu'on ne fermera pas de classe sans leur accord. Vous la sentez l'arnaque, vous ?
Bon, un dernier Big Bang fait la une des journaux, de ce jour, celui des retraites.
Il y a un tremblement de terre qui se fait attendre, mais qui pourrait bien avoir d'énormes conséquences sur les retraites des Français. Problème, on sent bien du côté de l'exécutif que demander aux actifs de travailler plus longtemps, ou plutôt les y inciter, risquerait de rester en travers de la gorge de nos concitoyens, surtout après la très décriée réforme de l'assurance chômage. Mais la temporisation déplaît assez fortement au haut commissaire chargé de la réforme, le chiracien de la première heure, Jean-Paul Delevoye, comme le définit Libération, qu'il qualifie aussi de dinosaure en pension dans le Nouveau Monde, et qui raconte son impatience dans son édition du jour. Le quotidien présente aussi l'impossible équation macronienne, citation, sans toucher, engagement de campagne oblige aux 62 ans, âge à partir duquel on est, sauf exception, autorisé à partir à la retraite, le président, a émis l'idée d'une décote avant une autre bande d'âge pour inciter à travailler plus longtemps. Donc si je résume, on ne vous force pas à rester travailler, on vous enlève juste une partie de votre pension si vous ne le faites pas. Ça fait un peu cher l'incitation.
Merci infiniment Hugo de nous tenir au courant dans cet été de l'actualité. Sans toi, je n'en saurais rien de ce qui se passe à l'extérieur de ce studio. Pour cette première soirée de la grille d'été de Radio Campus Paris, l'équipe de MapMonde nous a programmé un best-of de ses émissions. On parcourt le globe et on découvre le métal à travers le monde et leurs émissions. MapMonde et toute son équipe que l'on retrouve jeudi sur le parvis du musée de l'immigration dès 19h pour une émission en live. On sort le studio pour les apéros en plein air et en musique. Quant à nous, l'apéro vous donne rendez-vous demain avec Pitoum pour une émission cinéma cette fois. À peine le temps de remercier Mika à la réal, Alex à la coordination, Hugo à la revue de presse et Daphné qui a super bien se préparé cette émission. À très bientôt.